les Tima Fang Luang Luang Lao Ti Pakao Lao Hai Tao Fang. Je vais continuer au français, donc je vous ai juste remercié d'être venu louer le Seigneur au soupe ce matin et d'être d'accord d'écouter un peu nos histoires du Laos. Voilà. Alors, pour moi, le travail était un peu moins bien défini que pour Étienne. Ça m'a donné le temps d'étudier la langue, de m'adapter à la culture du pays, de cultiver notre jardin, et puis petit à petit, à créer des relations, entre autres dans le voisinage auquel j'ai pris beaucoup de plaisir. Au niveau du SFE, faut baisser encore un petit peu. Voilà. Au niveau du SFE, j'ai pu pratiquer un peu l'accueil quand nos collègues du Sud montaient à Vientiane pour une séance ou l'autre. Ce qui arrivait de temps en temps, j'ai pu avoir à dormir l'un ou l'autre, ou faire des choses comme ça. Et Je rédigeais aussi, on avait une petite circulaire de prière interne toutes les semaines pour se donner des nouvelles les uns les autres. Ça, c'était aussi mon petit job. Mais j'avais pas une très lourde tâche au niveau SFE. Pour les courses, j'ai bien profité du marché local. Là, c'était ma marchande régulière pendant un certain temps et c'était très sympa, quoi. Voilà. J'ai aussi eu des aides ménagères qui venaient d'un centre de formation pour jeunes de régions défavorisées. Et ces jeunes filles, elles apprenaient entre autres à savoir tenir un ménage chez une expatriée, ce qui leur permettait aussi d'avoir ensuite un job pour gagner quelques sous pour poursuivre leurs études. Donc, ça, les premières que j'ai eu peu de contacts parce que je parlais encore trop mal la langue, mais avec les suivantes, j'ai eu quelques bons contacts qui se poursuivent encore maintenant parce que à l'heure actuelle, on a des moyens modernes comme Facebook et c'est très sympa. Voilà. Je vous mets à l'image suivante. Je vais vous parler un petit peu du climat spirituel dans le pays. Donc, la religion majoritaire, en tout cas dans les zones de plaine, comme là où on était à Vientiane, c'est le bouddhisme. Et ça peut pas se moquer. Il y a des temples bouddhistes dans chaque quartier. Il y a des bouddhas sous les arbres à certains endroits. C'est la religion principale. On entend aussi leurs prières la nuit. On est baigné dans ce climat de bouddhisme. Mais ce qui tourne en sous marin, même dans les endroits où il y a le bouddhisme, mais dans les endroits, il y a aussi des endroits où le bouddhisme est moins implanté, c'est l'animisme. Alors, là, en haut à gauche, vous voyez quelque chose qui ressemble à un temple bouddhiste, mais dedans, il y a ce qu'ils appellent le pilier de la ville de Vientiane, et c'est un truc, je sais pas exactement ce que ça représente, mais, ils vont tourner autour et faire des prières et ça représente les esprits du lieu ou quelque chose du genre. Et puis, les autres images, il y a cette grande porte qu'on voit souvent à l'entrée des villes, particulièrement dans le sud. Ça aussi, l'idée, c'était que les mauvais esprits restent au dehors et ceux qui sont favorables à la ville soient dedans. Alors, les détails de ce qui est représenté sur les piliers et tout, ça a certainement des significations, moi je saurais pas vous dire, mais voilà. Et puis aussi, là où il y a le très grand arbre, juste à côté, si vous voyez, il y a un rocher dessus, il y a des petites boissons, des petits trucs. Ça, c'est des offrandes aux esprits de l'arbre parce que probablement qu'on pense qu'au pied de cet arbre, il y a des esprits qu'on peut se rendre favorable. Et ça, on trouve des petites offrandes, même en ville, au coin des maisons, à certains moments, dans certaines fêtes. C'est quelque chose qui est présent tout le temps. Alors, je pense que pour certaines personnes, ça pourrait être oppressant. Nous, on l'a pas senti comme oppressant parce qu'on était avec notre Seigneur Jésus-Christ qui a la victoire et la puissance là-dessus. Et ben voilà, ces esprits, c'est triste parce que c'est très asservissant pour les gens. Et il y a toujours, une offrande à faire, quelque chose à faire pour que les choses fonctionnent. Et il y a des familles où les gens n'achètent des fruits que pour les offrir aux esprits, au pire. Voilà. Alors, voilà, ça c'est l'église où nous allions, qui est une église officiellement reconnue. Donc, il y a trois sortes d'églises reconnues au Laos. Il y a l'église catholique, qui n'est pas très répandue, mais il y a quand même quelques endroits où il y en a. Il y a les adventistes et puis il y a les églises évangéliques dont il y a un peu plus, je pense, que les autres. C'est certainement les chrétiens les plus représentés qui ont le droit de se réunir. Alors, il y a toujours un problème avec les bâtiments. Officiellement, ils ne sont reconnus comme lieu de culte que les bâtiments qui existaient avant la Révolution, dont celui-là. Et puis, il y a quelques autres lieux. Puis après, il y a eu d'autres endroits où il y a eu plus ou moins des autorisations de construire des bâtiments. Et puis, tout le reste est en zone grise. Et puis après, il y a des choses qui sont carrément en zone clandestine, mais où les autorités locales ferment plus ou moins les yeux. Voilà. Alors, une chose qui est intéressante, c'est que comme c'est l'Église évangélique du Laos, toutes tendances doivent cohabiter sous le même toit. Et ça, on l'a très bien ressenti. Ça peut aller du plus pentecôtisant charismatique au plus traditionnaliste. On a tout qui doit et qui est bien obligé de vivre ensemble. Alors, ça donne... C'est une école de vie aussi pour eux, je pense. Voilà. Alors, je ne vais pas parler beaucoup de la persécution. Il faut savoir qu'en ville, il y a une certaine ouverture maintenant et qu'au niveau, je pense, du gouvernement, pour avoir des relations aussi internationales, comme ils sont en train de s'ouvrir aussi pour des raisons commerciales et tout, il y a un assouplissement. Et au niveau de la loi, les chrétiens ont le droit d'exister et le droit de rendre culte. Alors après, c'est rendre culte là où c'est permis. Et puis, on peut pas faire des réunions où on veut et quand on veut. Maintenant, ça vaut pour toutes les réunions. Si je veux faire une réunion sur la culture des haricots dans les chanderies et que je réunis 50 personnes pour ça, je dois aussi demander la permission, autrement j'aurai aussi des ennuis. Voilà. Alors, j'ai mis l'image de cette personne-là. C'est le pasteur d'une église qui est à environ 200 kilomètres au nord de Vientiane. Et on a été invité chez lui à Noël en 2017 parce que son fils est un de nos chers employés de Vientiane. Alors, on a été invité à manger de sa maison. Je vous ai mis la photo parce que c'est assez typique. Il y a une grande surface, mais tout cohabite là-dedans. Vous voyez au fond, il doit y avoir leur lit, caché derrière les rideaux moustiquaires, là. Et puis, par terre, on mange par terre sur des nattes. La cuisine est séparée, elle est à moitié à l'extérieur parce qu'on cuisine encore beaucoup au feu de bois, donc ça fume, donc c'est mieux que ce soit un peu à l'extérieur. Donc, c'est assez simple, hein. Alors, maintenant, j'ai envie de vous raconter l'histoire de ce monsieur Kamsai qui, avec sa femme, ont eu, je pense, 6 enfants, dont 2 sont décédés. Et ce monsieur, il est paysan, il a des buffles et puis il cultive du riz autrement. Ça va ensemble parce que les buffles, c'est aussi pour travailler dans les chanderies. Et puis, c'est aussi d'avoir quelques buffles, ça fait du fumier pour les rizières. Enfin, alors, c'est son métier. Et puis, il y a une petite vingtaine d'années, ils ont eu un de leurs enfants qui était malade gravement. Et ils sont en dernier recours descendus à Vientiane pour aller à l'hôpital principal, enfin, le plus qualifié pour s'occuper de cet enfant. Et ils sont allés là-bas et pendant qu'ils étaient là-bas, des chrétiens de Vientiane sont venus les visiter à l'hôpital et ont prié pour l'enfant. Alors, ils ont prié, ils ont cheminé avec les parents, mais l'enfant est décédé quand même. Les parents ont trouvé le Seigneur. Puis, ils sont rentrés dans leur petite ville de Cassis et ils ont commencé à témoigner de ce qu'ils avaient vécu et du fait qu'ils avaient trouvé le Seigneur. J'ai pas tous les détails. Je pense qu'ils ont été suivis aussi par des chrétiens. Le monsieur qui avait déjà 46 ans à l'époque s'est accroché à apprendre à lire parce qu'il voulait lire la Bible. Puis, alors là, il manque des détails aussi, mais il a été certainement formé pour devenir pasteur de l'église naissante dans sa ville. Et le jour où on est allé fêter Noël chez eux, l'église, vous pouvez voir, c'était tout plein, c'est une petite église. Et puis, on a vu des productions de plusieurs groupes, dont des groupes ethniques. Là, c'est un groupe Khmou, avec leurs uniformes noirs et colorés. Enfin, certains ont des vestes noires et colorées, là. Et il semble qu'il y ait à peu près une quinzaine de groupes de maisons dans la ville et les villages avoisinants. Donc, nous avons participé à cette fête de Noël. Ce qui était intéressant, c'est que les autorités étaient invitées aussi. Il y avait le chef de la police, il y avait le chef du village, il y avait tout le monde qui était là. Il y avait aussi le délégué régional aux religions, je ne sais pas comment on appelle, mais c'était un officiel aussi qui a aussi fait un petit discours pour bien expliquer à tout le monde que les chrétiens avaient le droit de se réunir, c'était très bien. Alors il a aussi mis les limites, à condition qu'ils disent ce qu'ils font. C'était très intéressant d'entendre, et ça donne un bon reflet du climat. Alors, ce qu'il faut aussi dire dans cette histoire et que j'ai pas encore raconté, c'est que il y a, je pense, 7 ou 8 ans, Monsieur Kamsai a reçu la visite de la police locale et il a été sévèrement tabassé au point qu'il était, il était entre la vie et la mort. Il a pu être évacué sur la Thaïlande et soigné. Mais c'est un monsieur qui a encore des séquelles maintenant. Il doit avoir, je pense, un traumatisme crânien. Il a encore des maux de tête. C'est quelque chose qui l'a marqué. Mais ça, ce qui est magnifique, c'est que ça l'a pas empêché de rester ferme dans sa foi, de continuer, de développer l'œuvre du Seigneur dans sa ville. C'est une histoire, je pense, assez représentative de certaines histoires du Laos. C'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de vous la partager. Je suis où dans le temps? J'ai encore un tout petit peu, ou bien... Oui, ok. Alors, je vais juste passer encore... Ça c'était le bonus. C'est des gens qu'on a rencontrés quelques mois avant de quitter le Laos. C'est entre autres un homme et sa femme qui ont à cœur d'évangéliser parmi les étudiants et ils ont monté une association qui évangélise par le sport. Donc, ils ont formé des coachs de foot et ils ont formé une équipe de foot aussi qui participe en ligue nationale. Et ça leur donne des entrées dans toute espèce d'endroit et autour des universités aussi. Et là, on les voit, c'était chez eux, ils ont 2 soirées par semaine où ils font des groupes d'études bibliques avec des jeunes. Alors, des jeunes, ça doit commencer à 15 ou 17 ans et puis plus. Et ça leur donne aussi des ouvertures pour aller dans des coins reculés du pays. Il y a des endroits où il y a juste un instituteur qui a un peu de peine avec son école et qui se sent un peu délaissé par le système général. Et ils vont là-bas, ils font une semaine un peu d'animation par le sport, genre des espèces de kids games ou comme ça. Et ils ont l'ouverture là d'aller dans les écoles. On a vu des photos où ils priaient avec des écoliers. Enfin, des choses qu'on pourrait absolument pas faire en Suisse. Voilà. Et on est encore en contact avec cette association et certains jeunes qui sont là-dedans. Et je pense que c'était aussi le bonus pour qu'on ait encore un lien fort avec le Laos. Alors, je vais revenir sur quelques versets qui ont été évoqués aussi par Étienne. Donc, on a ressorti un appel, on a obéi, on y est allé, puis on a vécu en étranger de ce pays. Ça, c'est très intéressant de vivre en étranger de pays parce que on acquiert un regard différent sur pas mal de choses. Comme on est un peu paumé dans nos repères, eh ben, on regarde les choses. Puis après, quand on vient ici, on se dit, mais pourquoi est-ce que, ben, on regarde aussi ici avec un autre œil. Ça change notre manière de voir les choses et ça nous permet d'être ouvert peut-être à un petit peu plus de choses. Et puis, il y a le verset qui nous a accompagnés, je pense, un peu tout au long de notre vie, de mettre au service des autres le don qu'on a reçu. Alors, ça vaut pour les dons spirituels, ça vaut aussi pour le simple fait de pouvoir faire un repas pour quelqu'un, ou je sais pas trop quoi, des choses très, très concrètes. Et puis, dans le même ordre d'idée, il y a ce verset de l'Ecclésiaste qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le ». C'est de se garder un peu de disponibilité pour des choses que le Seigneur mettrait sur notre chemin, même si c'était pas programmé, attendu. Alors, j'espère que ça nous encourage tous à rester en route avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.